Bonjour pour ce sixième numéro de Déconfinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone au Mexique vendredi dernier Carlo Francescangeli.
Je suis ingénieur de radiodiffusion. Donc je suis belge et j'ai quitté la Belgique en 1981. Ben, j'ai passé toute ma vie à voyager dans le monde entier, faire des installations de télévision et de radio. Mais seulement des installations d'émissions. Donc moi, je ne travaille pas dans les studios, etc. Je travaille au niveau antenne, émetteur, faisceau hertzien, satellite, etc. Voilà. Donc j'ai commencé en Belgique avec la création de Radio Libre. Voilà. Donc j'étais un des pionniers. Et en Belgique, la création de Radio Libre. J'ai même eu des ennuis judiciaires avec ça. Parce que bon, j'avais fabriqué des émetteurs qui ont été saisis par la gendarmerie. Ils ont cherché la source et ils ont vu que c'était toujours la même personne qui les fabriquait. Voilà, donc j'ai commencé comme ça à rentrer dans le monde de la radio. Et puis, donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de travailler comme je suis objecteur de conscience. Donc, j'ai décidé de partir, de travailler dans le tiers-monde. Voilà, donc je suis arrivé en Bolivie. Et là, j'ai travaillé pendant 3 ans à remettre en marche toutes les émetteurs radio qui avaient été détruits par la dictature militaire à l'époque. C'était des radios qui appartenaient au syndicat des mineurs en Bolivie, qui était un syndicat extrêmement puissant. Chaque syndicat avait une radio. C'était des radios haute moyenne et haute courte. Et donc, on les a réparées. Et alors, on a importé d'Europe notre technologie de radio FM. En fait, on a été les pionniers, là, probablement en Amérique latine aussi, avec les premières radios, entre guillemets, pirates FM. On a fait ça. Et donc, moi, j'étais coopérant pour une ONG que vous connaissez certainement, qui s'appelait Oxfam, pour Oxfam Belgique. Voilà. Après 3 ans que j'ai travaillé pour ces radios, etc., comme coopérant, donc j'ai commencé à travailler au niveau privé, donc au niveau personnel, pour de grosses sociétés, généralement européennes, américaines, en installant des grosses installations. Mais sur le côté, donc, j'ai toujours eu cette idée d'aider des radios communautaires, des radios locales, des radios universitaires, au Mexique, par exemple, des radios indigènes. Donc voilà, j'ai toujours eu ces deux côtés. D'un côté, donc, pour vivre, je travaillais et je travaille toujours à un niveau strictement privé. Donc c'est de ça que je vis. Et d'un autre côté, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau affectif, ben je suis toujours attiré par ces radios communautaires, ces radios où il n'y a pas de fric, ces radios où il y a un esprit d'éducation, de culture, d'une autre info, du politiquement non correct. Voilà, c'est ce qui m'a toujours un peu attiré. Généralement vers le public. Voilà.
Le paysage audiovisuel au Mexique.
Mais au Mexique, en fait, le paysage audiovisuel, il est complètement privé. Il y a d'extrêmement très puissants grands groupes de médias, mais extrêmement puissants, en fait, qui ont toujours été liés au pouvoir politique qui était en place depuis 80 ans, depuis la révolution mexicaine jusqu'à il y a une dizaine d'années. Ça a toujours été le même parti qui a été au pouvoir. Donc, en fait, tous ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, d'avoir une licence, etc., bon, ce sont d'extrêmement grands groupes, des gens extrêmement importants, liés au pouvoir politique, bon, des genres Berlusconi, voilà. Donc, en fait, toutes les radios et les médias ici sont aux mains de grands groupes. Alors, il reste certaines radios qui sont, entre guillemets, aux mains de communautés indigènes, d'accord, qui ont été même subventionnées par l'État. J'en ai aidé quelques-unes et franchement, ben, je trouve ça décevant. Je trouve ça décevant parce que ce sont des radios, je crois, où ils attendent plus de recevoir une aide publique que de réellement rendre service, de réellement essayer de profiter du média pour essayer de faire changer quelque chose. C'est des disputes entre eux, c'est une manière d'avoir un certain pouvoir, etc. Moi, je ne vois pas vraiment l'utilité de ces radios, entre guillemets, communautaires. Alors, maintenant, avec le nouveau gouvernement, il y a depuis 2 ans ici au Mexique. Apparemment, il y a un relent de motiver certaines radios communautaires, etc., d'ouvrir un peu plus l'espace audiovisuel, en tout cas radio de télé, j'en sais rien, au niveau radio, à certaines communautés, à certains groupes, pour un peu essayer de, entre guillemets, réduire le monopole de ces grands groupes de médias qui existent dans le pays. Ici, au Mexique, c'est des chaînes très connues, hein, Televisa, ils sont même cotés à Wall Street, ils ont même des chaînes de TV aux États-Unis, la Univision, etc. Il y a Azteca, il y a des groupes de radio ici avec 600 radios. C'est énorme, hein, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement influent aussi. Surtout la télévision a un impact très fort sur la population. On estime, ben moi j'avais lu il y a quelques années, que le Mexique était un pays où les gens regardent plus la télé par jour et par famille. C'est extrêmement important.
Est-ce que les chaînes ont été très actives pour informer ?
Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Bon, le pays, pour l'instant, il est extrêmement polarisé. Ça veut dire que c'est un peu comme les États-Unis, un peu comme le Venezuela. Il y a un président ici qui a, entre guillemets, qui se revendique une personne de gauche. D'accord ? Lui, ce qu'il fait, en fait, tous les matins, il a une émission en direct à la télévision, tous les jours. D'accord ? Il parle pendant une heure. Il y a quelques journalistes là qui lui posent des questions, etc. Donc, il y a une partie de la population qui est extrêmement accrochée à elle. D'accord ? Et une autre partie qui le haït complètement, qui le considère comme un imbécile, comme un con, comme un type qui parle de trop, etc. Et de l'autre côté, il y a des gens qui s'identifient avec lui, qui disent enfin quelqu'un qui communique avec lui, etc. Donc en fait, le pays, c'est comme les États-Unis, tu aimes Trump ou tu le hais, comme au Venezuela aussi. Et donc le pays devient extrêmement polarisé. Donc en fonction de l'angle sous lequel tu regardes la situation, tu as deux échos complètement différents. D'un côté, tu vois, tu dis, ah ben, le gouvernement fait quelque chose, il a donné des petites primes aux gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas accès à la sécurité sociale, etc. Et d'un autre côté, tu as les gens qui disent, ce type est un con, il cache la vérité, les hôpitaux sont pleins, c'est saturé, enfin bon, le discours qu'on entend partout généralement. On a un peu ce double langage avec, comme je répète ici, la situation qui est extrêmement polarisée. Alors, rajouter à ça, les réseaux sociaux, qui, à mon avis, attention, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, là, que je vais dire, ont de plus en plus un impact. Je crois qu'il y a plus d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, des blagues, des conseils de docteurs, des cas de mort, etc. Toutes ces informations circulent à une vitesse phénoménale sur les réseaux sociaux. Je crois que ça va bien plus vite que les infos vraiment qui viennent du gouvernement. Je crois. C'est un avis complètement personnel, disons.
Il faut s'interroger aussi sur la définition de ce qu'on appelle une information.
Exactement.
Quelle est la position des dirigeants par rapport à la pandémie ? Est-ce que ça a été pris en compte tout de suite ?
Non, en fait, ça a été leur proche. Ça a été leur proche qui a été fait justement au président par, par ces groupes réactionnaires, en fait, disant qu'il le voyait un peu comme une grippette au début, qu'il n'aurait pas d'impact, que le système de santé peut survivre. Et puis qu'il y a un atout, et là il y a un atout qui est extrêmement important, c'est que en fait les décisions qui ont été prises ici, et je crois qu'ont été prises dans un certain nombre de pays en Amérique latine, viennent du fait que, je ne sais pas, mais une partie de la population en tout cas n'a pas accès aux soins de santé et vit dans une économie de survie, une économie informelle. Ça veut dire que si tu restes chez toi confiné, tu meurs parce que tu n'as pas de rentrée, tu n'as rien. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir établir une vraie politique de confinement, de prendre des mesures sanitaires strictes quand tu as une partie de la population qui n'a pas accès aux soins et qui non plus n'a pas des rentrées, n'a pas de subsides de chômage, s'ils restent chez eux, c'est catastrophique. Alors, rajouter à ça, il y a un autre phénomène que souvent on ne parle pas, qui est aussi grave aussi, c'est les enfants. Fait de la scolarité. Ceux qui ont Internet chez eux, qu'un ordinateur, une belle imprimante, bon, ils peuvent recevoir des cours via Internet, enfin, avec des nouvelles méthodes maintenant qui ont été développées à cause de la pandémie. Mais il y a une grosse majorité de gens qui n'ont pas accès à ça. Alors là, maintenant, le problème de la scolarité est grave. Donc, l'accès à la scolarité gratuite égalitaire, ben là, maintenant, c'est tombé par terre, cette histoire. Là, c'est grave. Alors, le pire, c'est que les parents qui n'ont pas beaucoup de revenus sont obligés d'aller dans la rue, sont obligés de travailler, de survivre, de trouver encore certains boulots, hein, parce que l'activité est relativement réduite. L'activité économique reste encore active. Bon, elle ne tombe peut-être pas à 100%, mais elle est active. Donc, les gens sont obligés, les parents sont obligés de travailler, et maintenant, les enfants restent chez eux. Voilà. Et sans peut-être l'appui des parents, etc. Donc là, c'est encore un autre problème. Donc il y a un problème de personnes qui n'ont pas accès à la santé. Il y a un système de santé qui n'est pas à la hauteur de certains pays européens ou asiatiques. Il y a le problème de la précarité au niveau du travail, au niveau des salaires, au niveau de la survie. Et rajouter à ça le problème de la scolarité des enfants. Donc voilà. Donc au début, il n'y a pas eu vraiment des mesures extrêmement strictes. Parce qu'en fait, le Mexique s'adapte très fort aussi sur le modèle américain. Le Mexique est un pays qui dépend presque exclusivement des États-Unis. Ici, dans la zone des frontières, c'est presque 6 millions de personnes qui travaillent pour des entreprises américaines qui sont installées ici à la frontière parce que bon, c'est les zones franches, la main-d'œuvre n'est pas chère, etc. Donc, il y a une économie qui est extrêmement liée à tout ce qui se fait aux États-Unis. Donc, à partir du moment où les États-Unis, comment je veux dire moi, ne ferment pas les frontières, ben, le Mexique ne le fait pas non plus parce qu'une grosse partie de la population aussi travaille aussi, croise la frontière tous les jours. Donc ici, en fait, ce qui s'est passé au Mexique est un peu lié à ce qui s'est passé aux
Il n'y a
États-Unis.
pas eu de mesure de confinement stricte.
Direct, au début, quand ça a commencé en Europe, bon, moi, j'étais confiné en même temps, plus ou moins, que je suivais un peu les news en Europe. Donc moi, j'ai arrêté de travailler et de voyager là. Au Mexique, ce n'était pas encore vraiment officiel. Donc ça a commencé peut-être 15 jours après de l'Europe. C'est peut-être avec peut-être le même timing que les États-Unis, approximativement. Alors, il n'y a pas eu des mesures au début extrêmement strictes. Donc on disait sécurité.
Qu'est-ce qu'il y a eu de
Les
fermé?
restaurants, ils les ont fermés. Certaines activités, vous avez beaucoup de monde, oui, mais les magasins étaient ouverts, les gens pouvaient circuler. Puis chaque fois, à mesure que la pandémie avançait, donc ils ont mis des mesures chaque fois plus strictes. Donc maintenant, par exemple, ici, à la frontière, on ne peut plus sortir sans masque. Il y a le couvre-feu à 6 heures du soir. Les déplacements entre les villes sont limités aussi. Il y a des contrôles de police, etc. Mais bon, peut-être pas si strict qu'en Europe, mais c'est un modèle qui est plus ou moins copié. Alors maintenant, au niveau santé, combien de gens affectés, combien de gens malades, etc. Bon, il y a les sources sont complètement différentes. Le gouvernement a dit une chose, et puis alors sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui disent les hôpitaux sont saturés, les médecins n'arrivent plus, il manque des masques, il manque de matériel. Enfin, le même blablabla, le même scénario que tu entends aussi en Europe. Avec ici, comme le système de santé n'est pas si bon qu'en Europe, bon, les conséquences que ça.
Les chiffres que j'avais relevés hier, donc au niveau des cas repérés 78 023, des guérisons 54 383 et des décès 8 597.
Voilà, et c'est concentré surtout sur trois grandes villes aussi. C'est la même chose qu'en Europe, qu'aux États-Unis, c'est des foyers relativement grande densité de population. Voilà, généralement.
Le premier cas est apparu le 28 février 2020. C'était un Mexicain qui revenait d'Italie. Une date prévue pour le déconfinement?
En fait, ils n'en parlent pas encore officiellement. La seule chose que je sais, c'est que je parle par exemple de la Californie mexicaine avec la Californie américaine, qui est une zone commerciale extrêmement dense. Il y a un échange énorme. En fait, rien que la ville de Tijuana, je crois que c'est 80 ou 100 000 véhicules qui normalement croisent chaque jour. Donc, je sais qu'ils vont rouvrir la frontière. Ils parlent le 22 juin. En fait, ceux qui peuvent passer la frontière, c'est ceux qui sont soit résidents aux États-Unis, soit ceux qui sont américains, ou ceux qui ont un permis de travail. Mais les autres ne peuvent pas croiser la frontière. Donc la frontière est fermée. Ils vont la certainement rouvrir parce que, bon, les Américains aussi, en partie, dépendent du Mexique aussi, et de chaque côté. Donc il y a une dépendance mutuelle. Bon, ils disent qu'ils vont la rouvrir le 22 juin, je ne sais pas. Moi, c'est les dernières infos que j'ai reçues. Au niveau général, je ne le sais pas. Je sais que les écoles sont fermées. Je crois qu'ils ont annoncé que l'année scolaire a été clôturée, officiellement, je crois. Parce que normalement, elle termine aussi maintenant au mois de juin. Je crois que c'est comme en Europe. Bon, la suite, je n'en sais rien. Franchement.
Au niveau port du masque.
Ici, le gros avantage, c'est que les gens se fabriquent des masques. Et tu vois tout le monde avec des masques. Tu vois pas des masques peut-être en toile, chirurgicaux. Ici, ils appellent ça le N95, le N95, comme vous dites. C'est 95% de filtration dans le nez. L'équivalent en Europe, je crois qu'ils appellent ça FP2. Tu trouves même maintenant dans chaque coin de rue où tu peux recharger ton portable, où tu peux acheter quelque chose, Tu vois des gens là qui vendent des masques faits en toile, etc. Là, je crois qu'à ce niveau-là, ça c'est l'avantage généralement des pays du tiers-monde ou des pays qui n'ont pas. Enfin, je ne sais pas si on peut considérer le Mexique comme un pays du tiers-monde, mais enfin, les gens sont plus débrouillards, ils savent coudre, etc. Donc là, à ce niveau-là, tu vois beaucoup de masques, tu vois déjà que des masques de toutes les couleurs, rouge, noir, etc. Donc ça, tu vois les gens qui portent des masques. Là, oui, ça tu le vois. Parce que si bien il n'y avait pas accès à les acheter immédiatement, il y a cet instinct de survie et de bricole que les gens ont encore et qui permettent de le faire. Et puis, tu peux même les acheter, c'est pas cher, ça coûte 40 ou 50 pesos, 1 ou 2 dollars, je crois, le masque. En toile, hein? En toile.
Je me demandais s'il y avait une augmentation au niveau des ventes des sombreros pour garantir la distance sociale.
En fait, le sombrero que tu vois là, du Mexicain assis là, recroquevillé sur ses genoux, c'est plus un mythe. Tu ne vois pas des gens dans la rue au Mexique avec des sombreros. Tu peux les acheter, mais tu ne les vois pas. Tu vois les musiciens qui en ont, etc. C'est quelque chose peut-être de culturel, d'historique. Il n'y a pas de gens en rue avec des sombreros. J'ai eu la chance de connaître tout le Mexique, mais vraiment tout le Mexique, d'y travailler et de voyager. J'en ai jamais vu. D'accord? Ici, ce qu'ils ont, c'est des, comment je vais dire moi, beaucoup des gens du Nord, etc., les fermiers, etc., ils ont des chapeaux comme des cow-boys, en fait. Tu vois les Texans avec leurs chapeaux, là, mais on se demande si ça ne vient pas du Mexique, en fait. Tu en vois plus des gens vraiment qui mettent ce genre de chapeau au Mexique qu'aux États-Unis. Ça, oui, tu en vois beaucoup. Mais des sombreros, personnellement, j'en ai jamais vu. Des gens dans la rue avec, jamais. Sauf pour des activités musicales ou folkloriques ou quoi que ce soit. Mais les gens n'utilisent pas de sombrero. C'est pour te dire, c'est une image qu'on a.
C'était une plaisanterie, mais c'était parce que je ne sais plus si c'est en Corée ou au Japon, pour les élèves, ils leur ont fabriqué des petites coiffes avec une petite réglette en plastique pour que les gamins puissent observer les distances sanitaires. Je me disais que tiens, le sombrero, c'était une bonne alternative.
Oui, c'est une bonne idée. Surtout s'il y en a un et l'autre qui en a aussi. Donc, c'est deux fois la distance du sombrero. Je crois qu'on arrive, on devrait arriver peut-être au moins à 1 mètre de distance. Sur la distance sociale, les Mexicains, c'est des gens ben, comme les Latinos, hein. Ben, sont des Latinos, donc c'est des gens plus communicatifs, ils sont moins froids que les gens peut-être dans le nord de l'Europe ou les Américains ou les Canadiens. Donc c'est plus difficile de maintenir une discipline parce que leur mode de vie aussi est comme ça. Alors il y a une autre chose, une grosse différence qui est certainement avec l'Europe. Ici, les maisons pour les vieux, des homes pour les vieux, pour les personnes âgées, ben, ça n'existe presque pas. Donc, en fait, les personnes âgées, les grands-parents vivent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Si dans une famille, un gosse revient ou un adulte revient contaminé, s'il y a la contagion avec le reste de la famille, ben, il est probable que les personnes plus âgées subissent plus facilement les conséquences. Donc, ça veut dire que les personnes âgées ici ne sont pas isolées. Les personnes qui sont malades du cœur, etc., ne sont pas isolées non plus. Donc ça, c'est un autre facteur qui n'est pas favorable à la situation pandémique.
Est-ce que c'est pertinent de parler de la population mexicaine en général?
Mais le Mexique, c'est un pays extrêmement grand aussi, hein, donc c'est difficile, c'est comme les États-Unis. C'est extrêmement difficile de dire les Américains. Alors, de la Californie et New York, ils ont peut-être la même monnaie et la même langue, mais tu vois que les gens... sont, je ne veux pas dire complètement différents, mais très différents. Le Mexique aussi est un pays énorme, qui a 3, 4, 5 000 kilomètres de distance en diagonale. Donc, il est difficile aussi de pouvoir généraliser. Ici, ceux qui vivent dans le nord, ben, il y a une influence américaine, on va dire, relativement forte. Comme ceux qui vivent aux États-Unis, près de la frontière mexicaine, eux aussi, ils sont plus latinos, etc. Ou la Californie, par exemple, il y a 30, 40% de la population qui est d'origine hispanique, qui est toute la main-d'œuvre agricole, etc., qui est complètement dépendante du Mexique. Et ça explique d'ailleurs pourquoi un État comme la Californie s'oppose même à Trump sur le problème de l'immigration. Tu vois, en Californie, les flics n'arrêtent pas les Mexicains ou les gens sans papier. Donc, ils s'opposent ouvertement à la politique de Trump. Parce que l'économie californienne dépend complètement de la main-d'œuvre mexicaine. Mais complètement. Moi, je me souviens, par exemple, quand il y a eu la grippe mexicaine là, en 2009, les États-Unis voulaient fermer la frontière entre la Californie. Il y a une ville qui s'appelle Tijuana, qui fait la frontière entre San Diego et le Mexique. Donc, Tijuana au Mexique, San Diego aux États-Unis. Mais donc, ils voulaient la fermer la frontière, mais ils ne l'ont pas fait sous ordre de la marine américaine. Parce qu'à San Diego, il y a une des plus grosses bases militaires maritimes américaines. Mais il y a 60 000 Mexicains qui travaillent, qui nettoient les bateaux, qui les repeignent, qui les approvisionnent, etc. Tu vois, donc la dépendance est extrêmement forte entre les deux pays.
Mais je pensais aux populations indigènes.
Mais là, malheureusement, d'ailleurs, bon, comme toujours, on n'en parle jamais. Comme c'est des gens qui sont marginalisés, il y a un racisme. Tu sais, les Latinos aussi sont racistes. Moi, je veux dire, on ne dit peut-être pas ça à l'Indien, on ne le dit pas en face, mais on lui fait sentir. Donc, il n'a pas accès à certains emplois, il vit dans une situation précaire. Voilà quoi. Tu vas, par exemple, au Mexique, à Mexico City, il y a une énorme immigration des régions sud du Mexique, donc Oaxaca, Chiapas, etc. Les gens, au niveau physique, ils sont plus petits, ils sont beaucoup plus besognés de la peau, etc. Mais tu vois que c'est eux qui font les travaux marginaux. Tu ne les vois pas vraiment dans les hautes sphères de la société. Et ça, malheureusement, tu le vois partout. Tu le vois en Afrique, tu le vois dans tous les pays d'Amérique latine. Tu le vois exactement la même chose. Donc, la couleur de la peau, malheureusement, est un indice de racisme et de sélection sociale.
Au niveau de la population indigène, elle est plus impactée.
Mais je ne le sais pas. D'ailleurs, il est fort difficile. Bon, généralement, les gouvernements ne font pas très attention. Les médias ne sont pas très présents. On veut dire, moi, ce sont des zones marginalisées. Donc, on en parle déjà très peu quand il n'y a rien. Alors, maintenant, avec la pandémie, je ne sais pas. En fait, j'entends très peu. Je sais qu'il y a une ville dans le Chiapas où il y a relativement pas mal de contamination. Ils en ont parlé dans les journaux télévisés ici. C'est lié directement à la pauvreté aussi, hein. Les gens n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont rien. Ils survivent avec des travaux journaliers. Alors, indirectement, ils sont peut-être plus sujets à ce genre de problème. Malgré que là, il fait plus chaud aussi. Il y a des gens qui disent non, avec la chaleur, etc., le virus meurt ou il a moins d'impact. Je ne suis pas si sûr de ça. En tout cas, moi, je n'ai pas de données, mais je ne vois pas vraiment, moi, personnellement, je ne vois pas un impact. Et moi, avec la chaleur où je vis, moi aussi, il fait 35-40 degrés, c'est une zone désertique, à la frontière aussi. Tu ne vois pas vraiment que ce sont des régions qui sont moins affectées.
Vous parliez de la grippe mexicaine en 2009. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment?
Mais en fait, apparemment, elle est venue au Mexique, et puis bon, ils ont vacciné, je crois qu'il y a eu des vaccins. C'est peut-être la grosse différence qu'il y a eu avec celle-ci. J'ai l'impression que c'était quelque chose de plus de saisonnier. Les Américains, à un certain moment, ont pris des mesures très strictes, donc ça ne s'est pas tellement répandu, parce qu'il y avait un vaccin aussi, je crois. Attention, je ne suis pas sûr. Moi, je l'ai vécu aussi, je n'ai pas été malade, j'ai eu des connaissances qui l'ont eu, mais il n'y a pas eu ce nombre de décès et ces chiffres vraiment alarmants et catastrophiques comme on entend maintenant avec le Covid-19.
Personnellement, comment vous avez vécu et comment vous vivez ce moment-là?
Je suis confiné. Je vis dans une zone rurale, à 15 km d'une ville, donc relativement loin de tout. Donc très bien isolé. Donc normalement, moi, je vis, il n'y a pas de problème. Bon, le seul peut-être problème, c'est quand on va au supermarché, etc. Là, il faut mettre des masques, il faut se désinfecter, il faut laver tous les produits qu'on achète, il faut prendre une douche, laver ses vêtements après, etc. Enfin, prendre les mesures strictes. Voilà, parce que je le fais, parce que je m'informe, parce que je ne peux pas prendre le risque de tomber malade. Moi, je n'ai pas accès à la santé ici au Mexique, j'ai accès à la santé en Belgique. Je pourrais aller aux États-Unis aussi. Je suis couvert là, mais je ne peux pas passer la frontière. Donc, si j'ai quelque chose, je ne peux même pas prendre l'avion pour retourner en Belgique. Donc, moi, il faut que je fasse trois fois attention. C'est pas mauvais non plus. Ça t'oblige à être plus strict, plus exigeant. Parce que le pire, c'est de croire qu'on est protégé avec un masque, par exemple. Alors que peut-être on ne l'est pas complètement. Alors on ose peut-être prendre certaines attitudes, oui, ou certaines manières de vivre qui ne sont pas à l'abri d'être contaminées.
Qu'est-ce qui vous a fait vous poser au Mexique?
En fait, je suis arrivé au Mexique parce que, donc, c'est un nouveau travail. J'ai été engagé par une chaîne de télévision au moment où il y a eu la transition de la télévision analogique au numérique. Donc, en fait, je suis venu installer les premiers appareils ici, dans les trois plus grosses villes du pays. Et alors, ils m'ont demandé de superviser d'autres installations dans le pays et surtout la formation de personnel. Donc, former le personnel à ces nouvelles technologies, etc. Donc, j'ai eu l'occasion de voyager, mais vraiment dans tout le pays, en avion, en voiture, etc. J'ai beaucoup apprécié ce pays parce que on l'apprécie quand on commence à le connaître. J'ai vu des endroits vraiment merveilleux. Et puis, comme j'ai toujours vécu comme un pigeon, il y a un moment où on cherche une certaine stabilité, une certaine, avoir un toit, avoir un endroit un peu plus fixe, etc. Comme je ne suis pas vraiment fanat des États-Unis, mais j'aime beaucoup, par exemple, la Californie et l'Arizona. J'aime bien les déserts, etc. Donc, je me suis installé du côté mexicain et pas trop loin de la frontière pour un peu tirer les avantages un peu des deux côtés. Parce que bon, si tu vis dans le sud du Mexique, qui est extrêmement joli, par exemple, la région de Chiapas ou de Oaxaca, ce sont des régions très proches du Guatemala, c'est merveilleux, les gens sont extraordinaires. Mais le problème, quand on est européen, on est trop isolé. Moi, j'ai mes enfants, j'ai ma fille qui vit à Londres, j'ai mon fils qui vit à Amsterdam. Donc, pour voyager, etc., c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus cher, etc. Et puis, à un niveau personnel, je travaille toujours à un niveau privé. Ces derniers mois, je travaillais pas mal aux États-Unis. C'est pour ça que je me suis mis du côté mexicain, pas trop loin des États-Unis, pour un peu tirer les avantages des deux côtés. Donc, une qualité de vie mexicaine, les gens, le climat, etc. Et la facilité de voyager, etc., pour les États-Unis, quoi.
Je pensais que les pigeons voyageurs revenaient naturellement à leur point de départ.
En fait, moi, j'ai quitté la Belgique en 1981. Moi, j'aime beaucoup revenir en Europe. Je reviens plus ou moins, peut-être pas chaque année, mais je reviens souvent. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas, après une quinzaine de jours, j'ai envie de partir. Quand on a vécu 40 ans dehors, ben, il y a des fois, on se sent étranger. On n'a plus ces mêmes réflexes, on n'a plus ces mêmes envies, etc. J'aime beaucoup, hein, revenir. J'aime beaucoup. Mais je ne me sens plus à l'aise comme j'étais quand j'ai quitté l'Europe. Voilà. En fait, on s'habitue à d'autres genres de relations humaines, à d'autres manières de vivre, d'autres manières de manger aussi, etc. Enfin, à mon niveau, c'est complètement différent. Voilà. En fait, moi, j'aime bien les deux mondes. Voilà. J'aime beaucoup revenir en Europe, mais vraiment beaucoup. Mais, je sais pas, 15 jours, un mois. J'adore même. Mais pour vivre vraiment, je préfère, le style de vie ici, par exemple. Voilà, en Amérique du Sud, ici, peut-être dans certains pays d'Afrique. Voilà. Parce que pour moi, je privilégie plus peut-être les contacts humains que la facilité d'avoir un supermarché ou des routes asphaltées ou le téléphone qui marche bien tout le temps. C'est un choix de vie.
Merci à Carlo Francescangeli pour sa libre participation à ce sixième numéro de Déconfinez-vous à nous.